Les cours du Collège de France, François Recanati, chaire philosophie du langage et de l'esprit.
Aujourd'hui, comme c'est la dernière séance du cours, je dois rassembler regrouper des éléments, notamment deux fils en particulier que j'ai tirés et que maintenant il faut que je les tisse, je ne sais pas s'il faut dire. Vous vous souvenez qu'à un moment, le point de départ de la réflexion qui s'est développée pendant plusieurs séances, ça a été une certaine conception de ce qui distingue un contenu de pensée, une pensée, quelque chose qui peut être vrai ou faux, d'une simple idée, fût-elle complexe. Et l'idée était toute simple, c'était que quand on a un contenu de pensée, quelque chose de vrai ou faux, une pensée, on a une certaine complexité dans le contenu, d'abord, et un acte de l'esprit. La complexité vient du fait qu'on doit voir, pour que quelque chose soit vrai ou faux, il faut qu'on attribue à quelque chose une propriété, éventuellement une relation à d'autres choses. Et quand on attribue mentalement une propriété à quelque chose, c'est un jugement. Le jugement est vrai ou faux, en fonction de ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire de la question de savoir si l'objet dont on parle possède ou auquel on pense possède réellement la propriété qu'on lui attribue. Donc il y a l'idée que c'est le jugement qui implique un acte de l'esprit qui attribue une propriété à un objet et qui implique donc une complexité dans le contenu du jugement où il doit y avoir une propriété à un objet. C'est cela qui permet d'avoir quelque chose de vrai ou de faux, d'avoir donc un contenu de pensée. Et c'est une idée qu'on trouve, je pense, chez Aristote, mais elle est surtout très, très explicite dans toute la tradition de la logique traditionnelle, et j'avais donné une citation de la logique de Port-Royal où c'est particulièrement évident. Donc il y a cette tradition, et il y a deux objections dont j'ai parlé à cette théorie. Il y a une objection dont j'ai parlé pendant les dernières séances, qui est le fait qu'il semble bien qu'il y ait la possibilité de jugement, de contenu de pensée qui soit non pas complexe, qui ne possède pas cette dualité où on peut distinguer le sujet et le prédicat, mais des cas où le jugement soit tout à fait simple, le contenu de jugement comporte un seul terme. Donc j'ai parlé de cela un peu en long et en large. Mais l'autre idée que j'avais, l'autre objection que j'avais évoquée plus tôt, c'était l'objection qui a trait à la distinction entre force et contenu, qui est précisément ce sur quoi je reviens aujourd'hui. Et la distinction force-contenu, on la trouve chez Frege dans son article sur la pensée, dont je vous avais parlé dans la première séance, j'avais évoqué différentes notions de pensée, et donc Frege a une notion de pensée où une pensée, c'est quelque chose qui est vrai ou faux, il y a une certaine complexité, etc. Mais une chose sur laquelle insiste aussi Frege, c'est le fait qu'une pensée, c'est un certain contenu, un contenu de pensée, c'est pas la même chose qu'un jugement. Et en disant ça, il s'opposait à la tradition, parce que la tradition identifie pensée et jugement. Un contenu de pensée, c'est effectivement un jugement, et un jugement, ça possède cette complexité, il y a cet acte de l'esprit, etc. Mais Frege dit qu'il faut absolument les distinguer, parce que un certain contenu de pensée, on peut en faire toutes sortes de choses, on peut donner son assentiment, tenir le contenu de pensée pour vrai, et c'est ça le jugement. Le jugement, c'est quand il y a un certain contenu de pensée que l'on tient pour vrai. Mais on peut très bien penser quelque chose sans le tenir pour vrai. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose, il y a une certaine pensée que vous formez dans votre esprit qui correspond à ce qu'on vous dit, mais ça ne veut pas dire que vous l'acceptez automatiquement. Donc, on doit distinguer le contenu de pensée lui-même et le jugement. C'est ça que nous dit Frege. Et ça, c'est une objection, parce que la théorie dont j'ai dit qu'elle a cet ancien pédigré, qu'on la trouve donc depuis Aristote et qu'elle a duré extrêmement longtemps, la théorie que j'ai évoquée, selon laquelle un contenu de pensée est constitué par un certain acte de l'esprit qui attribue une propriété à un objet, ça signifie qu'on ne peut pas distinguer l'acte en question, l'acte de juger et le contenu, puisque le contenu et l'acte sont vraiment inséparables, puisque l'acte est constitutif du contenu dans cette théorie. Et donc, si on accepte la distinction force-contenu de Frege, on ne peut plus accepter cette théorie traditionnelle. Et c'était donc une des objections sur laquelle je reviens aujourd'hui. Ces idées de Frege, dont elles sont bien connues, elles ne l'ont pas toujours été, parce que Frege a commencé par être méconnu, avant d'être très connu, au moins dans la tradition de la philosophie analytique. Peter Hitch est un de ceux qui ont beaucoup fait pour populariser, disons, les idées de Frege, enfin sinon les populariser, disons, les faire connaître et montrer leur importance. Et en particulier, il a un article sur l'assertion, où il revient sur cette distinction force-contenu, en montrant, je vais évoquer un peu ce qu'il en fait, et il l'attribue à Frege en disant « Frege est, à ce que je sache, dit-il, la personne qui a le plus clairement, de la façon la plus, à la fois la plus claire et emphatique, ou quelque chose comme ça, établi cette distinction. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, j'avais évoqué ce point, on ne peut pas dire que Frege soit le premier à faire cette distinction, ni même à la faire de la façon, d'une façon claire et explicite. Dans l'histoire de la philosophie, dans l'histoire de la logique, il y a eu un certain nombre de philosophes qui ont présenté la même idée, la même distinction. Ça a commencé au Moyen-Âge, mais dans la période récente, par exemple chez Thomas Reid, le philosophe écossais, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la distinction est très tout à fait claire. J'ai donné aussi une citation dans une séance, un peu plus tôt, une citation de John Stuart Mill, qui était parfaitement au clair sur cette distinction aussi. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Et en particulier, l'auteur dont j'ai tant parlé ces dernières semaines, qui est Brentano, Brentano lui-même fait la distinction d'une façon absolument claire et aussi précise que Frege. Et il cite lui-même John Stuart Mill comme quelqu'un qui est d'accord avec lui sur ce point. Alors si on regarde la façon dont Brentano présente les choses, je pense que c'est intéressant. Il fait en quelque sorte deux distinctions. Je vous lis, si vous voulez, ce passage. Dans l'affirmation, dans la négation, dans la simple interrogation, quand on se demande si quelque chose est vrai, c'est le même objet, le même contenu qui est présent à la conscience. Alors, arrêtons-nous là, simplement. Donc l'idée, c'est qu'il y a un contenu, et puis il y a un acte de l'esprit. Donc ça, c'est déjà la distinction importante, la distinction entre le contenu et l'acte. Le contenu peut être le même, quel que soit l'acte, donc on doit vraiment les dissocier, on ne peut pas les confondre. Donc la notion traditionnelle de jugement les confond, c'est ce qu'on appelle jugement à la fois un certain contenu de pensée et l'acte consistant à le tenir pour vrai. Et Brentano dit qu'il faut distinguer le contenu et l'acte, alors ça peut être l'acte de jugement, tenir pour vrai le contenu, ça peut être l'acte de rejeter, de dénier le contenu en question, de le tenir pour faux, donc le rejeter, et ça peut être simple aussi ce qu'il appelle une simple interrogation, c'est-à-dire quand on se demande, quand on ne sait pas, quand on ne prend pas position dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est il y a des distinctions entre le contenu et l'acte, et il y a une deuxième distinction qui est implicite dans ce que je viens de dire, qui est la distinction entre deux types d'actes, les actes qui engagent le sujet dans un sens ou dans un autre, le jugement, où le sujet dit « oui, c'est vrai », la dénégation, où le sujet dit non, c'est pas vrai, je sais pas comment il faut appeler ça, cet acte-là, qui est le contraire du jugement. Et puis, il y a, donc ces actes-là engagent le sujet dans un sens ou dans l'autre, et il y a des actes qui sont neutres, où le sujet s'interroge, se demande, et il ne prend pas position. Mais ça aussi, c'est un acte de l'esprit. Et ce que fait le sujet dans ce cas-là, c'est qu'il pense la chose, la pensée est présente à son esprit. Mais il ne dit pas oui, il ne dit pas non, il s'interroge. Et donc ces actes-là, évidemment, sont importants. Donc on a ces deux distinctions, la distinction entre l'acte et le contenu, et puis la distinction entre différents types d'actes, ceux qui engagent et ceux qui sont neutres. Et la distinction, ce qu'on appelle la distinction force-contenu, c'est en fait quelque chose d'un peu hybride. C'est la distinction entre le cas où le contenu fait l'objet d'un acte qui engage, et vous dites donc qu'il y a une certaine force, qui peut être positive ou négative, suivant qu'on affirme ou qu'on nie. Et puis les cas où le contenu est présent à la conscience, mais sans qu'il y ait cet engagement du sujet. Donc, par exemple, s'il y a un acte neutre qui est accompli, on se contente de concevoir la chose sans plus. À ce moment-là, il y a le contenu, mais il n'y a pas la force. Alors, pour revenir à la citation de Brentano, parce que j'ai lu que le début, il dit dans le troisième cas, c'est-à-dire dans le cas où le sujet s'interroge sans prendre position, où il conçoit simplement, mais sans, encore une fois, affirmer ni nier, il dit dans ce cas-là, il y a simple représentation. Et il dit dans les deux premiers cas, c'est-à-dire quand le sujet s'engage, positivement ou négativement, il y a à la fois représentation, on se représente la chose, on conçoit, il y a la pensée, et en plus, il y a acceptation ou rejet. Et donc ça, c'est une troisième idée importante, c'est l'idée que quand on a un acte qui engage, eh bien en fait, ces actes qui engagent ont une certaine complexité, puisqu'ils impliquent la conception, la représentation, et quelque chose en plus qui est l'assentiment ou le rejet. Alors que quand on s'interroge simplement, il y a seulement la représentation. Et pour ça, Brentano parle de simple représentation quand il n'y a que la représentation et que c'est neutre. Et dans les cas où il y a engagement du sujet, il y a une représentation, mais elle n'est pas neutre, puisque s'y ajoute l'assentiment ou le rejet. Brentano traduit ça en disant quelque part, il y a toujours représentation. On ne peut pas juger quelque chose, affirmer, sans se représenter. Alors, il y a un cas particulier, et particulièrement important, où la force judicative, la force du jugement est absente. J'ai mentionné le cas où le sujet s'interroge, c'est un cas où la force est absente, mais il y a un cas particulier qui est intéressant, c'est le cas où le sujet accomplit un acte qui engage, un acte doué de force, par exemple il juge quelque chose, mais le contenu de son jugement est une proposition complexe, composée, c'est-à-dire une proposition qui a, parmi ses constituants, une autre proposition. Et dans un cas de ce genre, vous avez un exemple ici, dans un cas de ce genre, le sujet s'engage vis-à-vis de la vérité de la proposition globale, la proposition complexe. Et ici, la proposition complexe, c'est soit Paul va s'excuser, soit Marie va démissionner. Supposons que le sujet pense ça, ou affirme cela. Il affirme, il croit cette chose globale, que l'une de ces deux choses va être vraie. Et il s'engage sur le fait que l'une des deux va être vraie. Il s'engage sur la vérité de la disjonction, comme on appelle la proposition complexe en haut. Mais il ne s'engage pas quant à la vérité des propositions qui sont des constituants de la proposition complexe. Ici, j'ai noté P et Q, les deux constituants. La proposition disjonctive, soit Paul va s'excuser, soit Marie va démissionner, c'est une proposition complexe qui a des constituants qui sont eux-mêmes des propositions, à savoir P et Q. La proposition que Paul va s'excuser, la proposition que Marie va démissionner, et le sujet n'affirme aucune des deux. Il ne s'engage pas, il ne sait pas laquelle des deux sera vraie. Il pense simplement que l'une des deux doit être vraie. Donc il s'engage vis-à-vis de la proposition globale, mais pas par rapport aux propositions constituantes. Néanmoins, afin de se représenter la proposition globale et de l'affirmer, comme il le fait, il faut bien qu'il se représente les propositions qui sont des constituants. Donc il se représente Marie démissionnant, Paul s'excusant, tout ça c'est présent dans son esprit, mais il ne prend pas position vis-à-vis de la réalité de ces états de choses. C'est seulement des briques dans la construction de la proposition complexe. Donc ça, c'est un cas particulier. Quand une proposition se trouve enchâssée à titre de constituant dans une proposition complexe, ben, typiquement, elle n'a pas de force, elle est simplement là à titre de constituant, à titre de matériau de construction, si vous voulez. Mais elle ne fait pas l'objet d'un jugement, quand bien même il y a un jugement qui s'applique à la proposition globale, ici, la proposition disjonctive. Et ce type de cas, j'ai dit, est particulièrement important, c'est le genre de cas où on a une certaine pensée ou une certaine proposition qui est présente sans qu'il y ait la force, sans qu'il y ait un acte vis-à-vis de cette proposition. Donc le seul cas particulier, c'est le cas où une proposition est une partie d'une grosse proposition qui, elle, fait l'objet d'un acte, disons, de jugement. Ce type de cas est particulièrement important et joue un rôle particulier dans l'argumentation de Peter Deitch, dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui a donné, disons, de l'élan aux théories de Frege, qui était à l'époque pas si connu que ça. En particulier, excusez-moi, Deitch nous montre que l'importance de la distinction entre la force et le contenu, entre un contenu de pensée et le fait que ce contenu soit asserté, fasse l'objet d'un jugement. Il donne l'exemple d'une règle d'inférence, donc bien connue, qui permet, si vous acceptez une proposition conditionnelle comme « s'il fait beau, les parcs sont pleins », supposez que vous acceptez ça. Si vous acceptez ça, si vous jugez que c'est vrai, ça ne veut pas dire que vous jugez que les parcs sont pleins ou que vous jugez qu'il fait beau, vous ne savez pas. Mais vous savez qu'il y a une corrélation entre ces deux choses. Donc s'il fait beau, les parcs sont pleins, ça vous le savez. Mais vous ne vous engagez pas quant au reste. Donc supposez que vous acceptiez cette proposition et supposez que vous acceptez en plus la proposition « il fait beau ». C'est une deuxième prémisse séparée, vous l'acceptez aussi. Ce que nous dit la règle de modus ponens, c'est que si on accepte ces deux choses, alors on doit accepter aussi la proposition que les parcs sont pleins. On doit pouvoir détacher le conséquent, comme on dit. Et donc, c'est très intuitif, c'est évident qu'on peut faire ça. Et alors, ce que dit Leach, c'est que, évidemment, ceci n'est possible que si la proposition... Il y a une certaine proposition qui est ici la proposition P, qui figure deux fois dans le raisonnement. La proposition P, c'est la proposition qu'il fait beau. Elle figure deux fois dans ce raisonnement. Elle est inconstituante de la première prémisse, qui est une proposition conditionnelle complexe. Donc, dans cette proposition conditionnelle, l'antécédent, il fait beau, c'est la proposition P. Et on retrouve la proposition P dans la deuxième prémisse, quand on affirme de façon indépendante et séparée, il fait beau. Donc, la même proposition intervient deux fois. Et il faut que ce soit la même proposition pour que ce raisonnement soit valide. C'est très important que ce soit la même proposition. Ça doit être la même proposition P qui intervient dans la première prémisse et dans la deuxième pour qu'on puisse effectivement tirer la conclusion. Et ce que nous dit Leach, c'est que c'est très important du point de vue logique que la même proposition ici P puisse intervenir une fois comme constituant dans une proposition globale, enchâssée, sans être affirmée indépendamment, et que cette proposition puisse aussi figurer comme chose que l'on affirme. Et ça doit être la même proposition dans les deux cas. Et ça nous montre, dit-il, qu'un même contenu de pensée peut tantôt être affirmé, tantôt ne pas l'être, et c'est toujours le même contenu de pensée. Qu'on l'affirme ou qu'on ne l'affirme pas, c'est le même contenu de pensée. L'acte de l'esprit, vis-à-vis du contenu, ne change pas le contenu. Le contenu, il est ce qu'il est, tout à fait indépendamment de l'acte. L'acte peut être accompli, peut ne pas être accompli, ce sera toujours le même contenu. Et ça revient simplement à l'idée intuitive dont je parlais tout à l'heure, qui est que qu'on affirme ou qu'on nie ou qu'on s'interroge, c'est le même contenu. Mais ces exemples avec une pensée qui est un constituant d'une pensée plus complexe servent à Leach dans la construction d'une machine de guerre. Je reviens à ça. Voilà. C'est écrit en tout petit, donc on ne lit pas très bien. Mais ce qu'il dit, c'est que cette distinction entre force et contenu, il dit ça va de soi, pourquoi c'est évident. Il dit oui, c'est peut-être évident, mais ça vaut quand même la peine de le dire, parce que cette simple distinction permet de réfuter les théories en philosophie du langage qui sont actuellement les plus dominantes au moment où il écrit. Effectivement, au moment où il écrivait, il y avait un courant de pensée en philosophie du langage dont Leach pensait que simplement en invoquant la distinction force-contenu, on pouvait se débarrasser en la réfutant, simplement à l'aide d'un argument qu'on appelle l'argument de Frege Leach. Et cet argument, la cible de cet argument, la théorie philosophique que Leach veut mettre à bas avec cet argument, c'est les théories philosophiques sur le langage qui étaient développées, notamment, là j'ai deux leaders de ce mouvement sont Wittgenstein d'un côté, à Cambridge et Austin à Oxford. Ce sont les approches pragmatiques du sens. Et ces approches pragmatiques du sens visent à rejeter l'approche, disons, qui était développé par des gens justement comme Frege et comme toute cette tradition de la philosophie analytique, tradition dans laquelle que revendique Leach lui-même, c'est une tradition où on lit ensemble l'idée de sens et l'idée de vérité ou l'idée de représentation. On considère que le sens d'une expression linguistique, mais on pourrait dire peut-être la même chose pour le contenu d'une représentation mentale, en tout cas là il s'agit de langage, le sens d'une représentation linguistique pour cette tradition-là, c'est quelque chose que l'expression représente. Vous avez un mot, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, ben, ça renvoie à quelque chose dans la réalité, un type d'objet, une propriété, quelque chose. Donc les mots signifient des choses dans le monde, renvoient à des aspects de la réalité, c'est ça leur sens, et on comprend, disons, une expression quand on sait à quoi cette expression renvoie. Alors évidemment, il y a des sortes de complications, c'est que Frege, par exemple, distingue la référence et le sens. Donc il y a la chose à quoi on renvoie et la façon dont on y renvoie. Mais disons que pour des auteurs comme Wittgenstein et Austin, ces subtilités-là n'importent pas tellement. Eux, ce qu'ils veulent dire, c'est que le sens va bien au-delà de la représentation. Il y a le sens, souvent, c'est quand quelque chose fait sens pour nous. Et prenez quelque chose de tout simple, une expression comme « merci ». Je vous dis « merci ». Le mot « merci » ne représente rien du tout. On ne peut pas dire quel est l'aspect de la réalité à quoi ça renvoie. Ce n'est pas comme le mot « chaise ». Le mot « merci » sert à accomplir un acte. Il sert à accomplir un acte social, à remercier. On remercie en disant « merci ». Et donc ici, le sens, c'est simplement ce qu'on fait avec ce mot-là. Et ce n'est pas du tout la même chose que la représentation. Et Austin appelle illusion descriptive l'idée que toujours le sens d'un mot, c'est quelque chose que ce mot décrit ou représente, à quoi ce mot renvoie. Il dit que ce n'est pas du tout ça, il y a beaucoup de mots qui ont une valeur simplement pragmatique et on peut même envisager la possibilité de généraliser ça en disant que le sens, c'est toujours quelque chose de pragmatique de ce genre, même le cas où il y a représentation. Mais je passe sur cette généralisation. Ce qui compte simplement, c'est que pour beaucoup d'expressions, c'est ce que faisaient notamment les élèves d'Austin. Très souvent, ils essayaient de montrer que pour un certain type d'expression, où les gens se cassaient la tête en se demandant qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça renvoie, etc., en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre à quoi ça sert, ce qu'on fait quand on emploie ce mot. Donc ça, c'était ce que... Prenez simplement un exemple vraiment tout simple, parce que ça m'introduit à ce dont je vais parler dans un instant. Si je vous dis que je vais prendre un bon bain, bon, qu'est-ce que ça veut dire bon? Est-ce que c'est une propriété du bain? Alors peut-être. On peut peut-être trouver qu'un bon bain, c'est un bain, il faut entre tant de degrés, ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, il est clair que, et ça ce serait la position développée par ces philosophes-là, que quand on dit un bon bain, bon exprime notre attitude vis-à-vis du bain. Ce n'est pas une propriété du bain. Il n'y a pas propriété objective du bain que l'on essaie de signifier. On exprime une certaine attitude positive vis-à-vis du bain, on a très envie de ce bain, c'est quelque chose comme ça qu'on dit. Ou peut-être c'est un bain où, tel que la personne dans le bain va y prendre beaucoup de plaisir, quelque chose comme ça. Mais c'est toujours une attitude vis-à-vis de la chose, c'est pas une propriété objective de la chose. En tout cas, il y avait donc cette tendance très importante, très développée, et en particulier, très importante aussi dans la réflexion éthique, quand les gens se demandent ce que ça veut dire bien et mal, quel genre de propriété c'est qu'on attribue quand on dit que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. Donc ça, c'est un problème pour un autre secteur de la philosophie, c'est pas la philosophie du langage, mais ça touche aux questions, disons, de signification quand même. Et ces courants dont je vous parle là, bah évidemment, ce qu'ils vous disent, c'est que quand vous dites de quelque chose que c'est mal, c'est pas qu'il y a une propriété objective dans le monde que vous attribuez à la chose. Simplement, vous exprimez le fait que vous désapprouvez la chose, ou peut-être que la chose est digne d'opprobre, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une attitude à nouveau vis-à-vis de la chose qui est exprimée. C'est un acte aussi qui est accompli. Dire que quelque chose c'est mal, c'est désapprouver la chose. C'est le genre de chose que pouvaient dire des philosophes influencés par ce courant-là. Donc, l'argument de Frege-Ditsch contre ce qu'on appelle l'argument de Frege-Ditsch contre ce genre de théorie consiste à faire remarquer que tous ces énoncés qu'on analyse en termes d'actes, par exemple, vous avez l'énoncé « être galant, c'est mal ». Quelqu'un vous dit « être galant, c'est mal ». Il ne faut pas être galant. Bon, eh bien, selon ces théories, en disant que c'est mal, on exprime la désapprobation vis-à-vis de cette activité qu'est la galanterie, de cette attitude qu'est la galanterie. On exprime de la désapprobation, c'est ça qu'on fait quand on dit c'est mal, on désapprouve. Et ce que nous dit l'argument, ce que nous dit Ditch, en fait, mais c'est ce qu'on appelle l'argument de Frege-Ditch, parce qu'il invoque la distinction frégéenne de la force et du contenu pour faire cet argument, ce que nous dit Ditch, c'est que si vraiment c'était ça le sens de mal, si à chaque fois qu'on utilise mal, qu'on dit que telle chose est mal, on désapprouvait, on exprimait sa désapprobation, alors ça devrait fonctionner aussi quand les mêmes mots se trouve enchâssé à l'intérieur d'une proposition complexe, puisque c'est ça le sens de ces mots. Ça devrait, toutes les occurrences du mot devraient véhiculer le même sens, puisque on suppose que les mots ont un sens, qui est quelque chose d'invariant, et dans tous les contextes, ils véhiculent ce sens. Donc si le sens du mot « mal », c'est que quand vous dites de quelque chose que c'est mal, vous désapprouvez la chose, vous exprimez votre désapprobation, ben, ça devrait être le cas encore quand vous enchâssez cela dans une phrase complexe. Or, regardez ce qui se passe. Si j'ai un énoncé conditionnel, je dis « si être galant, c'est mal, bah alors il faut arrêter de tenir la porte aux dames ou de porter leur valise. » Donc ça, c'est la personne tire une conséquence d'une sorte d'hypothèse, de quelque chose de posé à titre hypothétique. Mais la personne qui dit ça n'est pas en train d'exprimer sa désapprobation vis-à-vis de la galanterie. Peut-être que la personne qui dit ça est en faveur de la galanterie. Peut-être que cette personne est en train d'argumenter pour la galanterie. Mais la personne prend simplement cette proposition « être galant, c'est mal » et montre que ça a certaines conséquences. Si on accepte ça, alors il faut arrêter de faire certaines choses. Ce que je dis simplement, c'est que simplement accepter la proposition complète « si être galant, c'est mal, alors il faut arrêter de tenir la porte aux dames ou de porter leur valise », on peut très bien accepter cette proposition complète, la tenir pour vraie, sans pour autant désapprouver la galanterie. Quelqu'un de pro-galanterie peut très bien dire ça. Il peut dire, si être galant c'est mal, alors il faut arrêter de tenir la porte aux dames ou de porter leurs valises. Or, c'est très important de porter les valises des dames. Donc, c'est pas vrai que être galant c'est mal. Il pourrait dire ça et ce serait cohérent. Et ce que ça montre, c'est que l'occurrence, ici en rouge, de la proposition être galant c'est mal, à l'intérieur de cette proposition complète, cette occurrence-là ne véhicule pas la désapprobation. Mais si la désapprobation était partie intégrante du contenu de ces mots, alors il devrait y avoir de la désapprobation ici, et il n'y en a pas. Et donc, c'est comme ça que, et en fait, ce que pense Ditch, c'est que tous les arguments donnés par les philosophes du langage ordinaire pour, en faveur d'une analyse pragmatique de la signification de certains mots, se heurtent à chaque fois à cette objection qu'il n'y a qu'à prendre les mêmes mots, les enchâsser dans une proposition complexe, une proposition conditionnelle, et on s'aperçoit que la valeur pragmatique s'évapore. Ce que ça veut dire, c'est que la valeur pragmatique, la force désapprobatrice, par exemple, est présente seulement quand les mots apparaissent en isolation. À ce moment-là, il y a un acte du sujet. Mais cet acte du sujet, il disparaît quand la phrase est enchâssée. Donc ça montre que l'acte du sujet et le contenu des mots, ce n'est pas la même chose, il faut les distinguer. Et c'est une réfutation de la théorie en question. Bien, alors, maintenant je voudrais revenir, j'ai dit que cette distinction force-contenu était une objection majeure à la théorie du jugement, que on peut appeler la théorie traditionnelle du jugement, ce qui était, jusqu'au XIXe siècle, la théorie traditionnelle du jugement, c'est-à-dire l'idée qu'un jugement, vrai ou faux, une proposition, une pensée vraie ou fausse, résulte d'un acte de l'esprit qui attribue à quelque chose une certaine propriété ou peut-être une relation à d'autres propriétés. C'est certain que cette théorie, j'aurais mieux fait de vous donner la citation de Port-Royal qui est beaucoup plus, un peu moins ambiguë que celle d'Aristote que j'ai mise là. En tout cas, cette théorie suppose que le contenu et la force sont intrinsèquement liés, qu'on ne peut pas vraiment les séparer puisque c'est l'acte de l'esprit qui affirme, qui juge, qui attribue la propriété à l'objet, c'est ça qui permet d'avoir quelque chose de vrai ou faux, qui permet d'avoir une évaluation comme correcte ou incorrecte de l'acte, justement. L'acte de l'esprit qui dit ceci a telle propriété, cet acte-là peut être évalué comme correct ou incorrect en fonction du fait que l'objet possède ou pas la propriété. Donc il y a la dimension de la vérité ou de la fausseté, mais c'est seulement parce qu'il y a eu cet engagement du sujet vis-à-vis de quelque chose. Donc dans cette théorie, tout simplement, le contenu est constitué par l'acte. Dans la théorie issue de Frege, avec la distinction force-contenu, on a le contenu d'un côté et l'acte, c'est quelque chose d'extérieur qui prend le contenu comme objet et qui dit « oui, oui, c'est vrai ». Dans la théorie traditionnelle, le contenu résulte de l'acte. Il est constitué par l'acte et on ne peut donc pas les séparer. Donc il y a vraiment un conflit entre ces deux théories-là. Si on accepte l'une, on n'accepte pas l'autre. et donc c'est très intéressant de voir, et donc les gens ont accepté la théorie de la distinction force-contenu comme étant une évidence, c'est une évidence que parfois un certain contenu apparaît sans être asserté, sans être affirmé, sans faire l'objet d'un jugement. On peut se demander, on peut enchâsser la chose dans une proposition complexe. Ça paraît évident, donc on rejette la théorie traditionnelle du jugement. Mais comme on va le voir, c'est pas... Donc ça a été la, la conclusion qu'ont tiré les gens dans suivant Frege, Nietzsche et les autres. Mais ce n'est pas aussi évident que ça paraît. Et pensez notamment aux idées développées par Bertrand Russell dans ce qui est connu comme un manuscrit de 1913. Donc c'est un manuscrit, c'est une tentative qu'a faite Russell pour repenser la notion de jugement. C'est ce qu'on appelle la théorie du jugement comme relation multiple. Et c'est tout à fait quelque chose qui va dans le sens de la théorie traditionnelle. Ce que nous dit Russell, et c'est une théorie que Russell a élaborée, et puis Wittgenstein lui a fait des critiques qui lui ont paru... Beaucoup de gens disent que c'est à cause des critiques que lui a fait Wittgenstein qu'il a renoncé. Il a très vite renoncé, Russell, à cette théorie-là. Mais l'idée de la théorie, l'idée principale, il me semble, c'est que le contenu de jugement n'existe pas indépendamment de l'acte de juger. Donc, ce n'est pas vrai que l'acte de juger se rapporte à un contenu préexistant auquel le sujet donne son adhésion. Ce n'est pas comme s'il y avait ces contenus-là, puis on dit oui, non. Dans cette nouvelle théorie, qui était la théorie du jugement comme relation multiple de Russell, le contenu résulte du jugement, le jugement ou l'acte constitue le contenu, en tant qu'unité qui résulte de l'attribution du prédicat à l'objet. Et en fait, cette théorie était censée répondre à quelque chose dont je vous ai parlé, qui est le problème de l'unité de la proposition. Dans une proposition, vous avez un objet, vous avez une propriété, mais ça ne fait pas une proposition vraie ou fausse. Pour qu'il y ait quelque chose de vrai ou faux, il faut que vous attribuiez la propriété à l'objet, sans quoi vous aurez simplement une liste avec deux choses. Et donc c'est un problème. Qu'est-ce qui fait l'unité ? Qu'est-ce qui fait coller ensemble ces deux constituants ? Et une solution, c'est de dire ce qui les fait coller ensemble, c'est l'acte de l'esprit qui attribue la propriété à l'objet. Et donc c'est un peu dans cette ligne-là que s'inscrit Russell. Et ça revient à dire qu'on remet en cause l'analyse traditionnelle de la croyance. Alors Russell parle de croyance là où les gens parlaient de jugement. Donc il y a eu une sorte de petit changement terminologique qui s'est passé à un certain moment où le terme jugement qui était dominant en philosophie s'est passé au terme croyance, surtout dans la philosophie anglo-saxonne, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Prenez un énoncé ou une proposition comme « Othello croit que Desdemone aime Cassio », c'est l'exemple que prend Russell. C'est un peu compliqué parce que c'est un exemple justement relationnel, mais bon, c'est pas très important. La conception à quoi s'attaque Russell, c'est la conception encore aujourd'hui dominante, je pense, qui analyse ce genre de choses en disant que la croyance, c'est une relation entre la personne qui croit et ce qu'il croit. De même, si je mange une pomme, il y a une relation entre moi et la pomme, à savoir je la mange. Si Othello croit que Desdemone aime Cassio, il y a une certaine relation entre Othello et la proposition que Desdemone aime Cassio, à savoir Othello la croit, cette proposition, il croit que c'est vrai. Donc ça, c'est l'analyse traditionnelle où la croyance est une relation dyadique, comme j'ai dit dans une séance précédente. C'est une relation à deux termes, le sujet qui croit, A, ici, et la proposition qui est le contenu de la croyance, B. Donc on a cette relation R, où j'ai mis un chiffre pour indiquer que c'est une relation qui prend deux arguments, et c'est comme ça qu'on analyse la croyance. Et donc ça suppose évidemment qu'on a ces choses que sont les propositions, les contenus de croyance, que ça existe, indépendamment des actes ou des attitudes comme la croyance, le jugement, etc., qui s'appliquent à ces objets-là. Mais les objets, ils existent, on a ces propositions qui sont des contenus de croyance possibles. Et ce que dit Russell, c'est qu'il faut abandonner cette idée-là, parce que ça ne nous mène nulle part, vu qu'on ne sait pas très bien ce que sont ces propositions qui sont supposées exister. Il vaut mieux dire que Othello croit que Desdemone aime Cassio. Il vaut mieux l'analyser comme en bas de cette diapo, comme une relation à trois termes, où il y a Othello, c'est le premier terme, il attribue, c'est ça la relation à trois termes, il attribue à Desdémone la propriété d'aimer Cassio. Et c'est l'acte du sujet, l'acte de Othello qui attribue, c'est ça qui fait tenir ensemble Desdémone et la propriété d'aimer Cassio qu'il lui attribue. Donc c'est cette attribution par Othello de la propriété à tel individu, c'est ça qui crée en quelque sorte la proposition que Desdémone aime Cassio contenue de la croyance d'Othello. Mais cette proposition ne préexiste pas à cet acte. Donc j'ai dit que cette réanalyse du jugement ou de la croyance qui met au centre l'acte du sujet et qui ne se donne pas comme quelque chose existant de façon indépendante des propositions qui seraient des contenus de pensée tout faits en quelque sorte. Les contenus de pensée dans cette théorie résultent d'un acte de l'esprit, l'acte qui consiste à attribuer une propriété à un objet. Donc c'est tout à fait comme la théorie traditionnelle. Alors cette théorie, Russell, je disais, l'a évoquée, il l'a développée, il a eu des objections, et pour des raisons, peut-être à cause de ces objections, peut-être pour d'autres raisons, il l'a abandonnée. Mais la théorie, pas cette théorie-là, mais une théorie tout à fait semblable en un certain sens, est revenue au goût du jour tout récemment, à travers les travaux de deux philosophes du langage, donc Scott Soames et Peter Hans, qui ont développé des idées qui sont, à mon avis, tout à fait comparables. Donc, selon ces philosophes, qui reviennent sur ce problème de l'unité de la proposition, dont ils pensent qu'il n'est pas résolu, selon ces philosophes, au lieu de considérer la notion de proposition ou de contenu de pensée possédant la propriété d'être vrai ou faux comme quelque chose de plus ou moins primitif, et d'analyser les actes ou les états mentaux comme le jugement, la croyance, comme des relations à ces choses, supposées exister, être plus ou moins primitives, faire partie du monde en quelque sorte, ben eux disent qu'il faut abandonner ça, et à la place il faut partir des actes mentaux, des états mentaux, des choses qui existent effectivement dans le monde, les croyances des personnes, les jugements, etc. C'est de ça qu'il faut partir. Et la notion de proposition, on peut la dériver de cela par abstraction. Une proposition n'est rien d'autre que... Ben, en fait, eux, ils veulent une théorie même très simple, qui est ils veulent identifier une proposition et le type d'acte. Par exemple, la proposition que Desdémone aime Cassio, pour eux, c'est le type d'acte mental consistant à attribuer à Desdémone la propriété d'aimer Cassio. Alors peut-être que c'est un peu exagéré d'identifier la proposition au type d'acte, mais peut-être qu'on peut dire que la proposition n'est autre que le produit de ce type d'acte. Si quelqu'un pense ou dit que Desdémone aime Cassio, alors, par cette attribution à Desdémone de la propriété d'aimer Cassio, eh ben, il a produit, en quelque sorte, par son acte, ce contenu, cette proposition qui résulte de l'acte. Et une proposition n'est rien d'autre que le produit d'un tel acte. C'est ça, en gros, ce qu'ils veulent dire. Alors, c'est une théorie intéressante et qui développe dans deux directions différentes, mais avant de préciser comment il la développe, je voudrais tout de suite répondre à une objection évidente que posent ces théories. Ces théories nous disent que les propositions, les contenus de pensée, résultent d'un acte, sont le produit d'un acte, voire même se réduisent à un acte. Et tout ce qui existe, ce sont les actes mentaux, les états mentaux. Les propositions, c'est juste des abstractions. On ne va pas considérer que c'est des choses qui existent dans le monde et que les états mentaux, eux, sont des... ou les actes mentaux sont des relations à ces choses. L'objection, c'est que il semble qu'on puisse avoir des tas de propositions, des tas de contenus de pensée, sans qu'il y ait le moindre acte correspondant à ces contenus de pensée. Et ce que je veux dire par là, c'est des exemples comme des propositions auxquelles personne n'a jamais pensé. Donc j'ai cherché une proposition à laquelle personne n'a jamais pensé. Et cette proposition, elle existe quand même. Et je peux en dire toutes sortes de choses. Alors, j'ai pensé à cette proposition, la proposition que la petite fille de Nabucodonosor mange des souris roses à son petit déjeuner. On a toutes les raisons du monde de penser que personne n'a jamais dit ça, n'a jamais pensé ça, n'a jamais nié ça, ne s'est jamais interrogé pour savoir si c'était vrai. Donc, on a cet objet, cette proposition. Il semble que son existence soit tout à fait indépendante de celles d'actes mentaux qu'il apprenne pour objet. Et ça, ça va dans le sens de la conception qui nous dit que le jugement, la croyance, c'est une attitude ou un acte qui, vis-à-vis d'une proposition qui est une sorte d'objet abstrait qui existe de façon indépendante et que peut-être c'est quelque chose de primitif. Cette illustration, sans doute, vous étonne parce qu'on ne voit pas les souris, mais c'est une illustration qui a été engendrée par un outil d'intelligence artificielle. Ça, c'est une autre illustration des limitations peut-être de l'intelligence artificielle. On voit pas mal de roses, mais pas les souris. On voit un petit déjeuner, et la petite fille est charmante. Donc, problème, pourquoi on a cette proposition? Pardon, la souris est peut-être derrière? Non, c'est ça ton nom. Oui, ben ça, j'ai aucune idée. Oui, peut-être. Peut-être. Ouais. En tout cas, donc je ne sais pas ce qu'il faut exactement répondre à cette objection. Je pense que vous avez peut-être dans la tête l'idée qu'on pourrait répondre que là, maintenant, on est en train d'y penser, donc il y a bien un acte. Mais moi, ce que je cherchais, c'était une proposition à laquelle personne n'avait jamais pensé, pas une proposition à laquelle personne ne penserait jamais, pour dire que parmi toutes les propositions, ben, il y en a un certain nombre qui ont déjà été formulées, pensées, qui ont fait l'objet d'actes mentaux ou linguistiques, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont jamais été. Et ça, c'est à la base de l'idée classique de ce que c'est qu'une proposition. C'est un peu comme les phrases françaises, c'est un peu le même genre de choses. Une phrase française, ben, des phrases françaises, il y en a plein qui ont déjà été prononcées, mais il y en a beaucoup plus qui ne l'ont jamais été, qui sont quand même des phrases françaises correctes qu'on peut, effectivement, qu'on peut fabriquer. Ben, c'est un peu pareil pour les propositions. Et donc, c'est embêtant que si on lit la proposition, le contenu de pensée à l'acte, c'est embêtant si une conséquence, c'est que s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de proposition. Parce que là, on a envie de dire qu'il n'y avait pas d'acte, mais qu'il y avait quand même cette proposition-là qui n'attendait que cette séance pour être mise au jour, en quelque sorte, comme je le fais maintenant. Alors, la réponse à cette objection-là, c'est... elle est toute simple. Elle consiste à dire que quand on réduit la proposition à l'acte, le contenu de pensée à l'acte, ou quand on dit que la proposition, c'est le produit de l'acte, ce qui est peut-être une façon plus prudente de s'exprimer, ben, l'acte dont on parle, ce n'est pas forcément un acte effectif que quelqu'un fait à un moment donné. C'est un acte type, comme je vous le disais tout à l'heure, le type d'acte consistant à attribuer à Desdémone la propriété d'aimer Cassio. Le type d'acte. Ce type d'acte est instancié. Il y a cette distinction très importante dont je vous ai déjà parlé entre les types qui sont quelque chose d'abstrait et les instances particulières du type. On a cette distinction dans absolument tous les domaines. Donc, il y a le type d'acte consistant à attribuer à Desdémone la propriété d'aimer Cassio et il y a l'acte particulier de Othello quand lui se dit Desdémone aime Cassio. Lui, à ce moment-là, il accomplit effectivement cet acte d'attribuer à Desdémone la propriété d'aimer Cassio. Mais quelqu'un d'autre pourrait accomplir cet acte. Et de façon générale, il y a le type abstrait, qui est l'acte, qui peut avoir plein d'instances, et un acte peut aussi ne pas avoir d'instance. Il peut y avoir un acte type qui n'a aucune instance, si personne n'a... Donc là, ici, on peut très bien dire que la proposition que la petite fille de Nabucodonosor mange des souris roses à son petit déjeuner n'est rien d'autre que le type d'acte consistant à attribuer à la petite fille de Nabucodonosor la propriété de manger des souris roses à son petit déjeuner. Cet acte type, il est instancié maintenant par nous tous parce que nous concevons cette proposition, donc nous sommes en train mentalement d'attribuer à la petite fille de Nabucodonosor cette propriété, mais avant que je ne sorte cet exemple, personne n'avait jamais accompli cet acte, personne n'avait jamais attribué à cette petite fille cette propriété-là. Personne n'avait même pensé, peut-être, à cette... enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette distinction entre le type d'acte qui existe en tant que type abstrait et les instances particulières. Et quand on dit qu'on réduit les contenus de pensée ou les propositions à des actes, à des types d'actes, ça ne veut pas dire qu'on les réduit à des actes effectifs. Donc même s'il n'y a aucun acte effectif, même si personne n'accomplit l'acte, il n'y a pas d'instance de l'acte, l'acte existe comme abstraction. L'analogie, c'est avec des propriétés. Propriétés, c'est un peu comme les propositions, c'est quelque chose d'abstrait. La propriété d'être une licorne, ben, c'est une propriété, évidemment, très importante, qui existe, mais par contre, il n'y a pas d'instance. Il n'y a aucune licorne particulière. Les licornes n'existent pas, supposons que les licornes n'existent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a bien cette propriété, licorne, mais qui n'est pas instanciée. Mais et de la même façon, un acte type, comme celui auquel ces théoriciens essaient de réduire les propositions, cet acte type-là n'est pas forcément instancié. C'est-à-dire qu'il se peut que personne ne l'accomplisse jamais, cet acte, mais le contenu, lui, n'est rien d'autre que le produit de cet acte. Donc ça paraît effectivement une réponse qui permet d'écarter cette difficulté. Mais on a quand même l'objection de Friedrich. On peut dire, certes, qu'on parle des actes types et ils ne sont pas forcément instanciés. Donc ça explique qu'il y a des propositions qui existent potentiellement sans que personne les pense, d'accord, parce qu'elles correspondent à un acte type qui n'est pas instancié. Mais ce que nous dit Dietzsche au début de son article, c'est qu'une même proposition peut advenir dans le discours, tantôt affirmée, assertée, et tantôt non assertée, où une pensée peut être faire l'objet d'un jugement ou ne pas faire l'objet d'un jugement. Mais là, on ne parle pas de simple potentialité. On dit que dans la pensée effective, il y a certaines propositions qui sont l'objet d'un jugement, des choses que je crois, et il y a des propositions qui ne font pas l'objet d'un jugement. Si on revenait sur l'exemple enchâssé, pas enchâssé, il y a des propositions je vais peut-être pas revenir à la slide précédente. Mais donc, les considérations de Friedrich concernent uniquement des propositions qui sont effectivement, qui font l'objet d'un acte de pensée, qui sont effectivement conçues. Mais simplement, elles sont conçues, ces propositions, mais elles ne font pas forcément l'objet d'une prise de position, comme je disais tout à l'heure, prise de position positive ou négative. Donc ce sont tous les cas dont parle Brentano, les cas d'une simple représentation. Les cas où une pensée fait l'objet d'une simple représentation, et bien dans ces cas-là, la pensée, elle est instanciée en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une potentialité, comme la proposition que la petite fille de Nabucodonosor mange des souris roses au petit déjeuner avant que personne n'y pense. Ça, c'est une proposition pas instanciée en quelque sorte, une simple potentialité. Mais si moi, je considère maintenant cette proposition, ça veut dire que dans mon esprit, il y a cette proposition-là, il y a cette pensée. Je suis en train de penser maintenant que la petite fille de Nabucodonosor mange des souris roses à son petit déjeuner, mais j'y pense comme un exemple amusant, je ne suis pas en train de juger que c'est vrai ou de juger que c'est faux. Donc c'est un cas où on a une occurrence de cette pensée, une occurrence de cette proposition, ce n'est pas simplement quelque chose, une proposition type, quelque chose d'abstrait, on a une occurrence particulière, mais on n'a pas l'acte consistant à attribuer effectivement la propriété à l'objet, parce que je ne prends pas position là-dessus. Donc l'argument de Friedrich, encore une fois, concerne uniquement des propositions ou des pensées effectivement instanciées, des occurrences particulières, et faire remarquer que parmi les occurrences d'une pensée donnée, il y en a certaines qui font l'objet d'un jugement, mais d'autres qui ne le font pas. Et donc c'est un problème pour les théories comme celle des auteurs dont je parlais, qui disent que les contenus de pensée résultent de l'acte d'un sujet qui s'engage. Parce qu'il ne semble pas qu'il y ait un tel engagement dans le cas où une pensée apparaît sans faire l'objet d'un jugement, justement. Et donc la question se pose, cette théorie-là est simplement un avatar, la théorie de Soames, Hans, est un avatar de cette théorie traditionnelle qu'il en quelque sorte redécouvre. Et la théorie traditionnelle se heurte de front à cette objection, l'argument de Friedrich fondé sur la distinction force-contenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en réponse à ça? Eh bien, évidemment, il s'agit d'auteurs contemporains, ceux dont je vous parlais. Et les auteurs contemporains, ils sont bien au courant de Frege, de la distinction force-contenu, etc., et de l'argument de Dietzsche. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il y a deux réponses possibles. La première, c'est celle de Soames. Et en fait, ce qu'il fait, Soames, c'est simplement qu'il accepte l'argument de Friedrich. Il dit « oui, c'est vrai, il y a cette différence entre la force et le contenu. » Donc, ce n'est pas possible. On ne doit pas introduire la force dans le contenu. On n'a pas le droit. On ne peut pas dire donc qu'il n'y aurait pas le contenu s'il n'y avait pas l'engagement du sujet. On ne peut pas dire ça. Alors, Messoms, pourtant, ne renonce pas à sa théorie qui réduit les propositions à un type d'acte de l'esprit. Simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il distingue deux actes. Il dit que le type d'acte de l'esprit pertinent, celui qui constitue la proposition, c'est ce qu'il appelle l'acte de prédication. Il faut prédiquer de Desdémone la propriété des Mécatio. Et prédiquer, c'est peut-être ce à quoi pensait Aristote, avec cette idée de synthèse prédicative, on met ensemble le sujet et le prédicat. C'est pas tout à fait la même chose qu'attribuer la propriété au sujet. Ou peut-être c'est la même chose, mais en prenant attribuer dans un sens particulier. Ce que veut dire Soames, c'est que l'acte de prédication, il est neutre, il n'engage pas le sujet. Donc ça veut dire qu'on peut mettre ensemble le sujet et le prédicat et en quelque sorte attribuer en un sens atténué la propriété à l'objet sans s'engager quant à la possession réelle de la propriété par l'objet. Donc il y a un acte neutre qui est l'acte de prédication et on distingue cet acte neutre de prédication de l'acte véritable consistant à attribuer réellement la propriété à l'objet en s'engageant, en disant oui, l'objet a la propriété. Et ça, c'est un autre acte. Donc, Soames, il accepte complètement l'argumentation freudienne et il redéfinit l'acte qui le concerne comme étant un acte neutre. Tout à fait selon l'idée aussi de Brentano, qui parlait d'acte neutre. Donc, simplement, il pense que la prédication, la synthèse prédicative, est un acte neutre. Et l'engagement du sujet vient par surcroît. Le sujet peut ou pas dire oui, c'est vrai, oui, une fois qu'il a fait sa composition et qu'il a une proposition, un contenu, il peut dire oui ou non. Mais ce n'est pas le fait d'assembler ensemble le sujet et le prédicat qui comporte un élément d'engagement positif ou négatif. Donc c'est ça que dit Soames. Et le problème avec cette théorie, c'est qu'on a à nouveau quelque chose de primitif qu'on met sur la table, qui est à prendre ou à laisser. Ce n'est plus la notion de proposition. Maintenant, c'est la notion de prédication comme chose neutre. Il y a cette idée qu'attribuer une propriété à un objet au sens atténué, au sens neutre, ben, c'est autre chose que juger que l'objet a la propriété. Et alors, qu'est-ce que c'est? On a envie de demander. Et la réponse est, ben, c'est quelque chose de primitif dans la théorie. On voit pas trop ce que c'est. On n'a pas besoin de dire ce que c'est, parce qu'après tout, on a droit d'avoir des éléments primitifs dans une théorie. Par exemple, la notion de propriété, je vous dis, là, on attribue la propriété à un objet. Qu'est-ce qu'une propriété? Ben, on n'a pas défini ça. Hein. C'est quelque chose qu'on prend comme quelque chose de plus ou moins primitif. Donc, ça, c'est la position, telle que je la comprends, et la difficulté, enfin, c'est pas une difficulté, mais disons que l'analyse s'arrête un peu vite, disons. Cette idée de réduire les contenus de pensée à des types d'actes, c'était intéressant, parce qu'il y avait justement cette idée qu'on allait prendre vraiment ce qui existe, les actes mentaux, des choses comme ça, que c'était notre base, et qu'on allait analyser tout en fonction de ça, et là, manifestement, non, c'est pas tout à fait ce qu'on fait, puisqu'on cède avec des notions qui sont... ils n'ont pas immédiatement transparente. En tout cas, je mentionne cela, peut-être c'est la bonne chose à faire, peut-être que la position de Soames, c'est la position parfaitement équilibrée qu'il faut tenir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'autre théoricien, Peter Hartz, lui, il va jusqu'au bout. Il défend, enfin, il donne l'impression, parce que dans les choses plus récentes, il me semble que c'est pas aussi radical que ça l'était au début, mais il donne l'impression d'aller jusqu'au bout. Lui, il dit, oui, non, non, l'acte en question, l'acte qui est constitutif du contenu, l'acte qui fait qu'il y a une proposition, c'est effectivement l'acte d'attribuer la propriété à l'objet, et ça, c'est un acte qui engage le sujet. Si ce n'était pas un acte qui engageait le sujet, on n'aurait jamais un contenu vrai ou faux. Vrai ou faux, c'est des choses normatives. Ça veut dire qu'on juge l'acte correct ou incorrect, selon la façon dont les choses se passent effectivement. Et si le sujet ne s'engageait pas dans un sens ou dans l'autre, ça n'aurait aucun sens d'évaluer comme correct ou incorrect le produit de cet acte-là. Donc lui, il pense que l'acte, c'est bien l'acte du sujet qui s'engage. Et donc lui rencontre de plein fouet l'objection de Freludich. C'est que si vraiment il n'y a pas de proposition comme occurrence, effective, comme instance, sans qu'il y ait un acte de l'esprit qui attribue effectivement la propriété à l'objet, alors comment ça se fait que dans un million de cas, on puisse prendre en considération une proposition, l'imaginer, la concevoir, sans s'engager? Comment est-ce possible? Il ne devrait pas y avoir de contenu dans ce cas, puisqu'il n'y a pas eu l'engagement du sujet. Alors donc, se pose ce problème de Freludich, et ce que nous dit Hans à ce sujet est très intéressant. Il nous dit, ok, le problème c'est qu'il y a, comme dit Dietsch au début de son article, que des propositions peuvent faire l'objet d'un jugement et être assertées, être affirmées, par exemple, dans le cas linguistique, ou peuvent être simplement pensé, conçu, sentier un acte de jugement. OK. Il y a donc des propositions non assertées, comme dit Nietzsche, qui ne font pas l'objet d'un jugement ou d'une affirmation. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Il y a l'explication traditionnelle, nous dit Hans, c'est l'explication de Frege, de Brentano et de tous ceux qui acceptent la distinction force-contenu. Ça consiste à dire que les contenus de pensée existent, c'est des propositions, et qu'il y a un acte en plus de jugement qui consiste à les reconnaître pour vrai ou à les tenir pour fausses, donc c'est un acte vis-à-vis de ces contenus, c'est quelque chose en plus extérieur. Le contenu est indépendant de l'acte. Ça, c'est leur théorie, et ça explique bien qu'il y ait des contenus qui ne soient pas assertés, qui ne fassent pas l'objet d'un acte, puisque le contenu est indépendant de l'acte. Mais il nous dit qu'il y a une autre théorie possible qui n'a pas été envisagée. C'est-à-dire que Frege, Nietzsche et les autres ont fait comme si c'était l'unique réponse qu'on pouvait avoir à l'existence de propositions non assertées ou non, ne faisant pas l'objet d'un jugement. Mais ce que nous dit Hans, c'est qu'une autre possibilité, au lieu de dire qu'on a des contenus qui sont neutres et que l'esprit ajoute un acte de dire oui ou non vis-à-vis de ces contenus neutres, on peut considérer que les contenus ne sont pas neutres, sont intrinsèquement assertifs. Donc un contenu de pensée, c'est quelque chose qui comporte un élément de jugement, qui comporte un oui ou non, et qui donc est évaluable effectivement comme vrai ou faux, parce qu'il y a cet élément de jugement qui est intrinsèque, fait partie du contenu. Donc on accepte la théorie traditionnelle qui nous dit que le contenu est constitué par le jugement, mais on dit que la force qui est intrinsèque, qui fait partie du contenu, eh ben, on peut l'annuler si on plonge ce truc-là dans un contexte qui fait que, c'est un peu comme en chimie, il y a telle chose d'une certaine couleur, vous plongez dans un certain liquide et pof, ça prend une autre couleur. C'est un peu quelque chose de ce genre. Il y a l'idée que tous les cas qui nous intéressent, c'est les cas justement où une proposition apparaît à l'intérieur d'une proposition plus complexe, c'est ça les cas difficiles qu'invoque Nietzsche notamment. Et bien, ces cas-là, on peut dire que ce qui se passe, c'est justement qu'on a enchâssé. Donc, on peut très bien dire que être galant, c'est mal, cette proposition, c'est une proposition qui comporte de façon intrinsèque un élément de désapprobation. Parce que c'est ça que ça veut dire, être mal, ça veut dire qu'on désapprouve. Et il n'y a pas d'autre sens que ça. Supposez que vous acceptiez ça. Vous pouvez très bien dire que cette proposition intrinsèquement désapprobatrice, si vous la mettez dans l'antécédent d'un énoncé conditionnel, si vous mettez « si » devant, ben le fait que vous ayez mis « si » devant, ça annule la force désapprobatrice. Ça localise la désapprobation à l'intérieur de l'antécédent. Mais ça ne va pas plus loin, parce que c'est comme vous avez isolé, en quelque sorte, la force désapprobatrice grâce au mot « si », qui introduit une barrière étanche entre ce que porte cette proposition elle-même et puis les attitudes du sujet qui, lui, est à l'abri du « si ». C'est comme vous dites quelque chose, vous dites si, blabla, etc. Et les gens vous accusent, mais tu as dit blabla. Ben, vous dites, non, je n'ai pas dit blabla, j'ai dit si. C'est pareil, là. Vous n'avez pas désapprouvé, vous avez dit si. Donc, peut-être que cette idée que la force, dans certains contextes complexes, peut être annulée ou inhibée, comme un terme qui est utilisé aussi, c'est cette idée d'inhibition. Il y a quelque chose qui est présent. La force, elle est là, puisqu'elle est intrinsèque. Mais elle est inhibée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va en sens contraire et qui la contient. Donc ça, c'est l'idée de l'intuition de Hans, l'intuition très intéressante de Hans. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il faut dire ce que c'est que l'annulation de la force. Mais cette idée a donné naissance à une sorte de programme de recherche. L'idée qu'on peut, après tout, éviter ces problèmes de Frege-Nietzsche, tout en gardant la théorie traditionnelle qui nous dit qu'on a besoin de l'acte pour avoir le contenu, et on va dire que toutes les objections, les cas où on a une proposition ou un contenu de pensée qui ne fait pas l'objet d'un jugement, qui est simplement représenté, etc., on va dire que tous ces cas, ça va être des cas où la force, elle est quand même là, mais elle est annulée. Et c'est pourquoi c'est comme si elle n'était pas là, en quelque sorte. Et le problème, c'est de dire ce que c'est que l'annulation, avec des difficultés particulières. C'est que si la force judicative, la force du jugement, est nécessaire pour lier ensemble le sujet de la proposition et le prédicat, ben, il ne faut pas que l'annulation de la force dissolve le lien en question, parce qu'on a besoin de garder le contenu. Donc la difficulté, c'est que l'annulation doit avoir toutes sortes de propriétés, et ce n'est pas si facile de trouver des candidats. Alors, je ne vais pas... ce n'est pas le sujet de mon exposé, donc je ne vous en dis pas beaucoup plus, sinon que que moi-même j'ai développé une version de la théorie de l'annulation de la force, et ce que je défends, c'est que la force, on a tous les cas où une proposition fait l'objet d'une simple conception ou d'une simple représentation ou d'une simple appréhension sans qu'il y ait l'élément de force, sont des cas où l'acte de jugement n'est donc pas accompli, mais il est simulé. Donc c'est vraiment l'idée de simulation qui est l'idée essentielle. C'est celle que j'ai développée dans un cours il y a quelques années. Et ça veut dire que tous les cas où on se représente quelque chose de façon neutre sont en fait des cas où on fait comme si on jugeait. On ne juge pas, mais on fait comme si on jugeait. Quelque chose comme ça. C'est ça l'idée. Mais je ne vais pas du tout développer ça. Je voudrais simplement signaler une chose très étonnante. C'est que Peter Deitch, qui est le héros de la position adverse, de la position freudienne, est le premier qui a fait remarquer, bien avant Hans, qu'il y avait cette possibilité de recourir à une théorie de l'annulation ou de l'inhibition. Dans Mental Acts, il dit « Tout ce qu'on peut juger, de façon donc positive, on peut aussi le concevoir sans en faire l'objet d'un jugement. » Donc on peut simplement avoir une simple représentation. Et il dit « La structure interne d'une assomption, il veut dire le contenu, dans ces cas-là où on a une simple représentation, le contenu de la simple représentation, est la même, le même que celle du jugement. Donc que vous jugiez ou que vous considériez la chose simplement à titre d'hypothèse, c'est le même contenu. » Et là, il appelle une proposition non assertée, il dit, une assomption, la structure interne d'une assomption, comme MacTaggart appelle les pensées dépourvues de force assertorique, est la même que celle du jugement. Soit dit en passant, c'est intéressant pour les historiens de la philosophie. Il emploie là le terme assomption, il l'attribue à MacTaggart. C'est intéressant parce que, en fait, le terme assomption, c'est le terme de Meinong. Meinong a fait toute une théorie, tout un livre sur ces choses, ces propositions non assertées, ces pensées simplement, ces simples représentations. Pour lui, ou ces actes neutres dont on parlait suite à Brentano. Et MacTaggart, lecteur de Meinong, donc a repris le terme dans son livre La nature de l'existence. Mais Deitch apparemment ne semble pas au courant de ce qui est étonnant de la source chez Meinong. Il aurait pu, parce que Bertrand Russell a fait toute une série d'articles sur la théorie des complexes et des assomptions de Meinong, dont Deitch devait connaître. Et je vous signale que dans ce numéro de la revue Philosophie, il y a une traduction d'un des articles de Russell là-dessus, avec une présentation par le traducteur, qui nous donne un peu l'historique de ces discussions et de la réception des idées de Meinong dans le public anglophone. En tout cas, je reviens. Ça, c'était une parenthèse. Donc, il nous dit que la structure interne, quand on a une simple représentation au lieu d'avoir un jugement, positif ou négatif, quand on a une représentation neutre, il dit que le contenu est le même que le contenu quand on a jugement. Donc, c'est une façon d'affirmer la distinction force-contenu. Et il dit, en ce qui concerne la relation entre assomption, c'est-à-dire le cas où c'est une simple représentation sans force, et jugement, le cas où il y a la force, en ce qui concerne la relation entre les deux, il dit, c'est incroyable, il dit qu'en fait, il semble indiquer qu'il préfère la théorie que je viens d'évoquer à la théorie traditionnelle. Il dit, je tends à être d'accord avec Spinoza, donc je vais revenir sur le fait qu'il mentionne Spinoza ici, une pensée est par nature assertive et n'est empêchée de l'être que par une relation spéciale avec d'autres pensées présentes dans le contexte où elle apparaît. Et empêchée de l'être, en anglais, c'est inhibée. Il dit, elle est inhibée. Donc la pensée a une force assertive intrinsèque, mais dans un certain contexte, avec d'autres pensées autour, ben, la force est inhibée et ne peut pas s'exprimer, en quelque sorte. C'est ça qu'il dit. Et il attribue l'idée à Spinoza. Alors, effectivement, dans l'éthique, Spinoza dit qu'une idée, au sens cartésien d'idée, au sens que j'avais développé dans la première séance, par exemple, une représentation de ça que vous avez au tableau, eh bien, il pense qu'une idée pose l'existence de ce dont elle est la représentation et donc en ce sens intrinsèquement assertive. Et là, vous avez une citation. « Une idée, en tant qu'elle est idée, enveloppe une affirmation ou une négation. » non, ça s'oppose complètement à une vision qui est d'ailleurs partagée. J'ai parlé des théoriciens du jugement selon lesquels le jugement implique un acte de l'esprit et est constitué par un acte de l'esprit, mais ces gens-là pensent que pour les idées, c'est différent. Ils pensent que les idées sont neutres. Les simples idées, ils pensent que c'est neutre. Ça ne devient... Il y a un acte de l'esprit seulement quand il y a le jugement, quand on attribue des propriétés. Mais ce que nous dit Spinoza, c'est que toute idée, en tant qu'idée, quand vous représentez quelque chose, vous vous le représentez comme réel. Vous vous engagez aussi, de façon aussi brève que ce soit, le temps que votre idée apparaît dans votre esprit, vous posez la réalité de la chose. Et il s'ensuit que si vous pensez quelque chose, ben pour vous, vous vous engagez, pour vous la chose est, pour vous la chose est vraie. Et ce qui peut vous conduire à rejeter comme fausse ou à vous abstenir, disons, une idée, c'est simplement d'autres idées qu'il y aurait autour. Mais l'idée elle-même, intrinsèquement, elle est vraie. Donc voici une citation de Spinoza. « Concevons un enfant qui imagine un cheval et n'imagine rien d'autre. Puisque cette imagination enveloppe l'existence du cheval, c'est ce qu'il dit, et que l'enfant ne perçoit rien qui exclut l'existence du cheval, il considérera nécessairement le cheval comme présent et ne pourra douter de son existence. » Donc l'idée, simplement, en tant qu'idée, pose l'existence de ce dont elle est l'idée, et ça entraîne une adhésion de l'esprit. L'adhésion fait partie de l'idée, en quelque sorte. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à l'idée, comme chez Frege, d'extérieur au contenu. Ça fait partie du contenu, non seulement pour les contenus complexes, mais aussi pour les contenus simples. Autre citation dans le même sens. « Si l'âme, en dehors du cheval ailé, ne percevait rien d'autre, elle le considérait comme lui étant présent et n'aurait aucun motif de douter de son existence et aucune faculté de ne pas assentir, de ne pas donner son accord, disons. » À moins que l'imagination du cheval ailé ne soit jointe à une idée excluant l'existence de ce même cheval. Par exemple, votre connaissance du fait qu'il n'y a pas de chevaux ailés, ben ça suffit évidemment à annuler la force présente dans la simple idée de cheval ailé. Mais l'idée même de cheval ailé a une force intrinsèque. Et elle peut simplement, cette force, être inhibée, combattue, annulée par ce qu'il y a autour, par vos connaissances. Donc c'est une conception intéressante parce que... je n'ai pas le temps de gloser sur cette conception parce que... Pardon ? Alors, juste un mot. C'est intéressant parce que ça implique qu'il n'y a pas de... Cette distinction qu'on a chez Descartes entre l'entendement et la volonté, où il y aurait une faculté qui conçoit les choses et une faculté qui donne son assentiment, qui dit oui, non, etc. Tout ça, il y a un seul niveau. Mais j'en dirai un mot dans la suite quand même de ça. Donc, Guéroux résume tout ça en disant, pour Spinoza, l'idée comporte nécessairement l'affirmation spontanée de ce qu'elle conçoit. Et alors, j'ai parlé du cours que j'ai donné il y a 2 ou 3 ans. C'était, en fait, il y a exactement 2 ans, ce jour même, le 18 mars, il y a 2 ans, je parlais de ça, de ces deux conceptions, Frege ou Spinoza, et je faisais remarquer qu'il y avait eu un retour, un revival, si on peut dire, de la position spinoziste et même de nos jours. Alors, une des raisons, et je parlais notamment de Hans et Solms, une des raisons peut-être, c'est, je me suis demandé comment est-ce que ces écrits de Spinoza, où il y a ces remarques, comment est-ce que c'est arrivé aux oreilles de gens qui, typiquement, ne lisent pas ce genre de choses, en particulier des psychologues, parce que le revival dont je parle, c'est chez les psychologues. Je pense qu'une des sources, c'est peut-être le fait que William James, apparemment, lui, qui était un lettré, il en parle. Il dit que, selon une certaine conception, donc c'est celle de Spinoza, toutes les propositions sont crues, font l'objet de croyances, par le fait même qu'on les conçoit, à moins qu'elles n'entrent en conflit avec d'autres propositions qu'on croit au même moment. Donc c'est l'idée que si vous avez un truc qui vous passe par la tête, vous le croyez forcément, parce que c'est intrinsèquement quelque chose qui possède une force. Et ce qui vous fait que vous ne le croyez pas, c'est simplement qu'il y a tout ce qui est contraire à cette proposition que vous croyez autour. Et à ce moment-là, tous ces trucs-là annulent la force de votre proposition. Donc c'est une idée intéressante, et James a considéré que ça méritait d'être discuté. En tout cas, le revival dont je parle, c'est notamment... autour des travaux de Daniel Gilbert et d'autres, dont des psychologues expérimentaux. Là, le titre d'un des articles que vous voyez, c'est un parmi deux articles ici, parmi beaucoup. Le titre est intéressant, il dit « Vous ne pouvez pas ne pas croire tout ce que vous lisez ». Donc l'idée, c'est que dès que vous lisez quelque chose, aussi absurde et ridicule que ce soit, Ben, vous le croyez, et ce qui se passe simplement, c'est que votre croyance est très très vite annulée par tout ce que vous savez qui va contre. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de croire tout ce qu'on vous dit, c'est ça l'idée, et il essaie de le montrer expérimentalement. Et comme je disais, ce que fait Gilbert, c'est qu'il oppose deux modèles de la fixation des croyances, qu'il appelle le modèle cartésien et le modèle spinoziste. Donc, selon le modèle cartésien, la conception vient en premier, donc ça relève de l'entendement. Ça permet au sujet d'accéder au contenu de pensée, de se le représenter. Et l'acceptation du contenu, le fait de dire oui ou non, c'est une deuxième opération, c'est le jugement qui relève d'une autre faculté qui est la volonté. Donc ça, c'est le modèle cartésien, en deux étapes. C'est ça que veut réfuter Gilbert, en montrant que ce n'est pas vrai, que dès la première seconde de conception, il pense qu'il y a déjà l'assentiment de l'esprit et que l'assentiment peut seulement être annulé dans une deuxième étape. Et donc il accepte lui l'autre modèle, le modèle spinoziste. Et selon ce modèle, il n'y a pas de conception sans acceptation. Se représenter quelque chose, c'est d'emblée se le représenter comme réel, c'est ce que je vous disais. Et donc, l'acceptation vient tout de suite, en même temps que la compréhension, il n'y a pas de différence entre les deux, mais il peut y avoir la désacceptation, comme il dit. C'est un acte de déjugement. La personne qui dit non, non, c'est pas vrai, qui raye le truc. Donc ça expliquerait pourquoi, quand on dit de la calomnie, il reste toujours quelque chose, bah, ce serait pour ça peut-être, parce que vous dites quelque chose, bah, vous le croyez, même si après vous l'annulez, bah, il y a quand même un élément qui est là. Tout ça va dans le sens d'une idée intéressante qu'il y a chez Thomas Reed. Je mentionnais Thomas Reed tout à l'heure par le fait qu'il a aussi la distinction force-contenu. Thomas Reed est bien connu pour avoir dit qu'on a un instinct de crédulité. Les humains ont un instinct de crédulité, ils croient tout ce qu'on leur dit. Et heureusement, il y a un autre instinct, qui est l'instinct de dire le vrai, qui existe aussi. Ils ne peuvent pas s'empêcher de dire la vérité. Donc heureusement, ça s'équilibre. Mais c'est donc un peu la même idée que développe Gilbert. Ok, en tout cas, tout ça, j'en ai parlé il y a 2 ans, comme je disais. Maintenant, je voudrais très rapidement conclure, et conclure aussi l'année, en disant que j'ai fait état de 2 débats. Donc il y a un débat qui portait sur la question de savoir si le contenu de jugement devait nécessairement avoir 2 termes, sujet-prédicat, ou s'il ne pouvait pas y avoir, comme soutenait Brentano, Strawson, des contenus à un seul terme. Donc ça, c'était un premier débat. Et il y avait un autre débat autour de la distinction force-contenu et les 2 possibilités d'expliquer le fait qu'il y ait des propositions qui soient simplement conçues sans être affirmées, sans faire l'objet d'un jugement. Les 2 positions que je viens d'évoquer. Alors, ces 2 débats, à mon avis, se croisent et donnent lieu à 4 positions possibles. Donc, pour la question de savoir si le jugement possède nécessairement 2 termes, ben, je pense que, aussi bien Aristote que Frege, que tout ça, c'est normal d'accepter cette idée qu'il y a une complexité du contenu du jugement, du contenu des pensées, et la position défendue par Brentano et Strawson est plutôt ici une exception. En tout cas, il y a ces 2 positions qui existent. Et pour ce qui est du deuxième débat, ben dans le deuxième débat sur la distinction force-contenu, là, on a Frege et Brentano qui sont dans la même catégorie, ils acceptent la distinction force-contenu. Mais il y a tous ceux qui, suivant notamment les psychologues, optent maintenant pour un modèle spinoziste, en disant que modèle spinoziste est compatible avec la théorie plus traditionnelle du jugement qu'on avait de Aristote à la logique de Port-Royal, selon laquelle le contenu est constitué par l'acte, et théorie qui est compatible avec la position de gens comme Peter Hans. En tout cas, on a ces différents débats, et il me semble, et c'est ça ma conclusion, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il me semble qu'on peut énumérer 4 positions possibles suivant la façon dont on combine les réponses possibles qui sont données par rapport à chacun de ces 2 débats. Et donc, les 2 questions qui se posent, c'est est-ce que la force est constitutive du contenu ? Comme dans la théorie traditionnelle, la théorie que j'ai appelée aristotélicienne, mais dont l'illustration la plus frappante que j'ai donnée, c'était la logique de Port-Royal. Donc il y a cette première question. Et la 2e question, c'est est-ce que le contenu du jugement doit être complexe ? Est-ce qu'il y a forcément ces 2 éléments correspondant au sujet et au prédicat ? Et mon interprétation qui est très discutable pour un certain nombre, là je mets des noms, en fait, je pourrais mettre des noms beaucoup moins connus et ce serait beaucoup plus vrai. Là, j'attribue par ces noms des positions, par exemple, Spinoza, vous voyez, je fais dire à Spinoza que oui, la force est constitutive du contenu, alors là, il n'y a aucun doute, c'est clairement ce qu'il dit. Mais sur la question, le contenu du jugement doit-il être complexe? Je dis non, je le mets du côté de Brentano et Strawson, parce qu'il me semble que c'est toute idée pour lui qui est intrinsèquement assertive, même une idée, un cheval, une idée aussi simple que vous voulez. Il me semble qu'il devrait accepter cette idée qu'il n'y a pas besoin pour avoir un jugement que le contenu soit complet. Ça peut être un contenu simple, à partir du moment où il y a l'acte de l'esprit qui pose la réalité de la chose, il y a un jugement vrai ou faux. Il me semble que ça va dans le même sens que la théorie de Brentano et Strawson, même si lui-même ne parle pas de cela explicitement. Et son exemple du cheval ailé, parce qu'il ne parle pas énormément de ces choses, hein, il donne cet exemple du cheval ailé. Le problème de l'exemple du cheval ailé, c'est que ça ressemble à une idée, ce que j'appelais une idée par opposition à une pensée. D'un autre côté, il y a une certaine complexité, parce qu'il y a quand même la propriété d'être ailé que vous attribuez au cheval, donc c'est un peu ambigu. Mais néanmoins, j'ai envie de dire que Spinoza a une position extrêmement originale, si, telle que je l'interprète, où à la fois il dit « oui, la force est constitutive du contenu, non, le contenu de jugement ne doit pas être complexe ». Alors que Brentano, on a vu que Brentano était, lui, très original par le fait de soutenir que le contenu du jugement ne doit pas être complexe, on peut avoir des jugements à un seul terme, comme les jugements d'existence ou des jugements comme « il pleut ». Mais cependant, Brentano, lui, il refuse l'idée que la force soit constitutive du contenu. Il est exactement comme Frege, en pensant qu'il y a une distinction entre le contenu et la force. La force est extérieure, c'est un acte de l'esprit qui s'ajoute. Frege, lui, ben je pense que lui, il n'accepte pas les contenus de jugement simples. Et évidemment, il insiste sur la distinction force-contenu. Et Aristote, je pense, accepte à la fois que la force est constitutive du contenu et que le contenu du jugement, enfin la position que j'appelle aristotélicienne, ça aussi c'est complètement discutable, c'est pour avoir un nom fameux à mettre dans cette catégorie, il faudrait voir en fait à quoi si ça correspond. Mais en tout cas c'est une position possible, c'est quatre positions possibles. La position traditionnelle nous disait les idées ne sont pas assertives, on se représente les choses, c'est neutre. Il n'y a acte de l'esprit positif ou négatif que dans le jugement quand on met ensemble le sujet et le prédicat. Et là, on a quelque chose de vrai ou faux. C'était la position traditionnelle. Et dans cette position traditionnelle, le jugement doit être complexe. Pour avoir quelque chose de vrai ou faux et un jugement, il faut avoir quelque chose de complexe, avoir ces deux éléments. Si on a une simple idée, on ne l'a pas. Mais néanmoins, la position traditionnelle que j'attribue ici à Aristote maintient que la force est constitutive du contenu. Donc vous avez réellement ces quatre positions possibles et je pense que ça nous donne une sorte d'espace logique. Et j'avais dit que j'allais défendre un peu la position aristotélicienne, ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait. Je ne sais pas moi-même exactement comment résoudre certains des problèmes que j'ai posés la dernière fois, mais je viens à bout de mes 6 séances et donc je dois vous dire au revoir, mais avant ça, j'annonce, comme d'habitude, le séminaire à 11h30. Cette fois, c'est Anouche Bourmaillon qui va nous faire un exposé. Et donc, je vous dis au revoir et à l'année prochaine pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.